et le livre. Fini l'histoire. Je suis comme un peu ivre, un peu noir. J'ai tourné la page, vidé le cendrier, puis ouvert la cage sans regret. Mis dans la corbeille tous les vieux papiers, les dessins aquarelles, tout jeté. Terminé le film, je peux me coucher. J'ai comme une déprime à cacher. Le disque des Doors, je veux conserver comme mémoire sonore d'une histoire passée, comme la mémoire sonore d'une histoire passée.
Vos yeux tout grands parce qu'elle a décidé de s'y plonger pour 40 minutes. Marianne, alors comment tu as entrepris Anne pour qu'elle te raconte tout sur
déjà,
nos
c'est
yeux.
Très difficile car je ne peux la quitter des yeux. Mais bon, je te regarde quand même, toi aussi, parce que je sais qu'après, tu me fais des scènes. Mais enfin bon, oui, eh ben, aujourd'hui, nous allons parler d'iridologie en compagnie d'Anne Senoussi-Wata. Bonjour.
Bonjour.
Qui est iridologue, précisément. L'iridologie, on connaît plus ou moins de près ou de loin, mais je crois qu'il serait bon quand même de définir vraiment en quoi ça consiste.
Écoute, je vais donner une première définition, puis avec cette définition, on va pouvoir un peu discuter. C'est en fait une technique de dépistage pour établir un bilan de santé, et ceci à partir, disons, de l'examen de l'iris, dont l'iris étant la partie colorée de l'œil.
Donc, mais est-ce qu'il y a différentes sortes d'iridologie ? C'est-à-dire, est-ce que quand on parle d'iridologie, alors on va chez un iridologue et puis qu'il nous regarde l'iris, et que ça, est-ce que ça se passe toujours la même chose ?
Oui, en gros, ça se passe quand même toujours la même chose. Disons, le matériel que l'iridologue utilise n'est pas toujours le même. Personnellement, j'ai un matériel qui est très simple, simplement une petite loupe et une lampe. Mais certains iridologues ont des machines beaucoup plus perfectionnées qui permettent de grossir l'iris jusqu'à 50 fois. Alors, je dirais peut-être que le matériel qu'on a, on choisit un peu le matériel en fonction probablement de l'utilisation qu'on veut faire de l'iridologie. Et comme personnellement, je vais davantage vers une iridologie, je dirais, de terrain, je me soucie assez peu des détails infimes et très subtils que l'iris pourrait me donner.
Alors bon, il s'agit donc de regarder dans les yeux d'un patient ou de quelqu'un qui vient vous voir. Alors, quand on vient vous trouver, qu'est-ce qu'on vient faire ? C'est sûr qu'on va se faire observer dans les yeux, on le sait, mais concrètement, comment ça se passe et qu'est-ce qu'on vient rechercher ?
Bon, vous voulez faire allusion à la demande des gens, hein,
oui.
Dans une certaine mesure. Qu'est-ce que les gens demandent quand ils viennent faire un bilan irien ? Alors, dans la plupart des cas, je pense que les gens sont un peu avertis que l'iridologie est un petit peu une technique qui va leur permettre de découvrir des choses peut-être qu'ils ne connaissent pas exactement d'eux-mêmes ou de confirmer des choses qu'ils savent d'eux-mêmes. Et ceci par, évidemment, une méthode quand même un peu mystérieuse. Ça, je peux reconnaître qu'on laisse encore planer autour de l'iridologie un certain scepticisme. Mais disons que, bon, en ce qui me concerne, ce que je cherche donc à établir, c'est de nouveau cette notion de terrain. Donc, les gens cherchent un peu à se connaître mieux. Et à travers l'iridologie, je pense qu'ils vont aller, en quelque sorte, à la découverte un petit peu d'eux-mêmes par un biais.
Alors, avant de préciser qu'est-ce que c'est que le terrain, moi, comment ça se fait? Comment faites-vous pour, en regardant dans l'œil de quelqu'un, déceler si tel ou tel organe de cette personne a une faiblesse ou...
Oui. Bon, j'ai une personne qui vient, qui est assise en face de moi et que j'examine avec une loupe et avec une lumière. Une lumière que je dirige soit en face, soit latéralement. Et ça fait apparaître l'iris, son dessin, sa structure. Hein. Et c'est en fait la coloration de l'iris, le dessin de certains signes, des taches, des signes qui sont plus en creux, qui me permettent, bien sûr, puisque je l'ai étudié, de déterminer un certain nombre de choses qui vont constituer le terrain de la personne.
Alors, il y a donc une anatomie de l'œil pardon, qui n'est pas la même anatomie que regarderait, par exemple, un oculiste ou un opticien.
Ah oui, alors ça, il ne faut pas mélanger. Hein. Quand on va chez l'oculiste, on va regarder en général un fond d'œil. Donc, on va regarder l'intérieur de la pupille, hein, ce trou noir que vous avez au milieu de l'iris qui se dilate et qui se contracte, c'est ce qu'on appelle la pupille. Et l'oculiste ou l'opticien va les regarder à l'intérieur, hein, de la pupille, dans ce qu'on appelle un fond d'œil. Moi, je ne m'occupe pas du tout de ça. Du reste, ça, des fois, il y a des petites confusions. Hein. Les gens pensent qu'on va regarder dans cette zone-là. Moi, je m'occupe de la partie colorée de l'œil uniquement, hein, qui est faite de fibres. Alors, il y a une anatomie de l'œil très précise et on peut expliquer un tout petit peu pourquoi l'œil a une certaine couleur, parce qu'il y a des pigments qui se développent à un moment donné dans la vie de l'enfant. Hein. Certains pigments apparaissent et c'est ça qui fait la couleur de l'œil. Alors, quand on a déjà la couleur de l'œil, on a déjà l'idée de la constitution de la personne qu'on a en face de soi.
Parce que la couleur de l'œil, ce n'est pas bleu, brun ou vert, j'imagine, quand vous parlez de la couleur de l'œil.
Alors,
en
iridologie, en fait, on a trois grandes constitutions. C'est relativement simple, c'est quand même ce que vous dites là, c'est-à-dire c'est une grande constitution qui est faite par les yeux bruns. Encore, il faut bien définir les yeux bruns parce que la plupart des gens qu'on voit ici n'ont pas des vrais yeux bruns.
C'est là que je me demande si les miens sont vraiment bruns.
Oui, non, je ne pense pas que les vôtres soient bruns, hein, très probablement. Bon. Donc, on a une première constitution avec des vrais yeux bruns. On en a une deuxième avec des vrais yeux bleus. Et entre deux, on a une constitution qu'on appelle mixte et qui est en fait réellement une constitution. Hein. Ce n'est pas un mélange de l'œil bleu ou de l'œil brun, mais c'est une constitution avec ses particularités. Et il faut reconnaître que c'est une constitution qui couvre à peu près 80% des gens que nous voyons dans le cadre de l'iridologie, parce que probablement, il y a des mystères là derrière, hein, que c'est une affaire génétique, hein, probablement.
Mais qu'est-ce que vous entendez par constitution ? C'est une constitution ?
Alors, constitution, disons très simplement, c'est ce que j'ai reçu génétiquement. Hein, il y a une inscription au niveau des gènes et qui donne la constitution et qui donne la couleur de l'œil. Et après... Et donc, c'est une affaire, je dirais, ce qu'on appelle dans notre jargon génotypique, d'accord ? Puis après, il y a l'évolution de cette constitution qui peut, depuis la naissance, se transformer jusqu'à aujourd'hui, hein, qui évolue. Et c'est au travers des modifications de cette constitution qu'on aboutit à ce qu'on appelle une sous-constitution, qui est donc déjà une évolution, je dirais, de cette constitution.
Donc, si j'ai bien compris, oui. Nous naissons tous avec des particularités spécifiques aux uns et aux autres. Par exemple, je ne sais pas, avec un estomac solide, des reins plus faibles, je ne sais pas, des choses comme ça. C'est ça que ça veut dire ?
Oui, c'est ça. C'est ça ce que. Oui. Disons que comment est-ce qu'on pourrait, pour bien faire comprendre, on est chacun, hein, avec, je dirais, un patrimoine qui est lié au passé, aux ancêtres qu'on a derrière soi. Hein? Donc, on transporte avec soi un héritage.
Et cet héritage, on peut le voir dans les yeux.
Ah bah voilà, exactement.
Vous avez parlé aussi de notion de terrain. C'est-à-dire que vous avez dit, oui, ce qui m'intéresse, c'est de dépister, c'est de dépister le terrain d'une personne.
Oui, parce que c'est quand même intéressant de savoir si on a ce qu'on appelle un bon ou un mauvais terrain. En iridologie, on permet de mettre en évidence un bon ou un mauvais terrain en fonction de certains facteurs qu'on découvre. Il y a des signes qu'on appelle des signes de vitalité qui permettent de dire que cette personne a des capacités, par exemple de bonnes capacités immunitaires ou de mauvaises capacités immunitaires. Elle a des possibilités de se défendre face aux infections ou de ne pas bien se défendre face à ces infections. Elle a un système neurovégétatif qui est, on en parle beaucoup, les gens commencent à savoir qu'est-ce que c'est ce système neurovégétatif, hein, qui est un système, je dirais, un peu de réponse, entre autres, par exemple, au stress. Hein. On peut savoir si on a un système neurovégétatif qui est équilibré ou si on est en blocage d'un système sur un autre. Les indices de vitalité, c'est aussi lié à une formule qui est très typique de la naturopathie, qui est l'encrassement, l'intoxination de l'organisme. C'est-à-dire que quelqu'un peut être encombré, si on veut, d'un certain, de certaines substances, de déchets, si on veut, cellulaires. Et ça apparaît au niveau de l'iridologie.
Est-ce qu'au niveau de l'iridologie, on arrive donc à faire une distinction entre ce qu'on a reçu à notre naissance et ce qu'on en a fait ?
Oui, probablement. On ne peut jamais affirmer avec certitude quand on a quelqu'un, ça, vous l'avez hérité ou ça, c'est quelque chose que vous avez acquis. Mais si on connaît bien l'iridologie, en principe, on peut déterminer qu'est-ce qui est de l'ordre de l'évolution, hein, disons. Hein, que la personne est née sans ce problème, mais avec un potentiel de développer peut-être, et que réellement elle l'a développé et qu'il y a des signes qui apparaissent.
Donc, concrètement, comment vous faites cette évaluation pendant un bilan iridologique ?
Alors, pour moi, il y a deux parties, hein, différentes. Il y a la partie de l'examen, proprement dit, de l'iris, d'accord ? Où là, j'examine, je note des choses. Je n'ai pas tellement, je dirais, de contact avec la personne qui est en face de moi, si ce n'est que je regarde son iris et qu'elle est bien illuminée pendant un moment. Et puis, il y a une deuxième partie, ensuite, qui est un questionnaire. Pour moi, ça c'est peut-être ma particularité, mais pour moi c'est extrêmement important de joindre à cet examen de la personne un questionnaire et de pouvoir éventuellement saisir si la personne dit des choses qui sont en rapport avec ce que je vois au niveau de son iris ou si c'est complètement différent. Ça me permet, disons, une approche. C'est un peu personnel, peut-être, comme travail, mais j'insiste beaucoup là-dessus.
Donc, de faire une relation entre ce que vous voyez et ce que la personne qui vient...
Tout à fait.
On parlait avant de Nathalie Sarraute, de se connaître soi-même, de ce que la personne se connaît d'elle-même.
Absolument. Et donc, des gens peuvent dire, je suis en très bonne santé, je ne suis jamais malade. Et vous, en tant qu'iridologue, je dis bien, hein, vous voyez quelqu'un qui a ce qu'on appelle un terrain délabré. Admettons, c'est un terme qui existe en iridologie. Bon, donc là, vous pouvez commencer à vous poser un certain nombre de questions. Et je pense que les avertissements que vous allez donner à cette personne vont être très différents de si cette personne est totalement consciente que son terrain est mauvais.
Thank you.
toujours sur Radio Zone 93.8, Remue Ménage.
Et nous parlons d'iridologie en compagnie de Anne Senoussi-Voita. Et donc, nous avons déjà parlé de terrain, de constitution. Avant de continuer à rentrer concrètement dans le sujet, je vous propose d'écouter Michel, qui récemment a fait un bilan iridologique.
Vous avez fait un bilan iridologique récemment. Qu'est-ce qui a motivé votre démarche ?
D'une part, j'avais envie de faire un bilan général un peu de ma santé. Je n'avais pas un problème particulier, mais bon, il y a toujours des choses qui sont à améliorer. Et puis, j'avais plus de médecin généraliste depuis un moment. Et j'avais envie de trouver une personne qui s'occupe plus de médecine naturelle et qui m'aide, en fait, qui puisse me faire un bilan et qui m'aide à voir au niveau de ma santé qu'est-ce que je pouvais améliorer dans un but de prévention aussi.
Alors, vous avez fait ce bilan, vous avez appris à mieux vous connaître, vous avez appris certaines de vos faiblesses.
Alors oui, effectivement, j'ai appris pas mal de choses très intéressantes sur un peu ma nature, sur ma constitution, sur les points faibles que j'ai, sur ce qui va bien aussi, et puis sur qu'est-ce que je peux faire pour améliorer, notamment au niveau de la nourriture, par exemple, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon état de santé. Et là aussi, je dois faire attention si je ne veux pas avoir des problèmes plus tard.
Parce qu'il y a des choses qui vous ont surpris dans ce qu'on vous a dit. Vous ne doutiez pas que vous aviez une faiblesse ici ou là ?
Dans mon souvenir, il y a peu de choses qui m'ont surpris. Ce qui m'a plutôt surpris, c'est en fait la justesse de ce que j'ai entendu. Et c'est à quel point ça correspondait en fait avec ce que je ressentais et puis ce que j'ai eu comme difficulté au niveau de la santé. Et ça m'a beaucoup surpris de pouvoir en fait voir de manière plus précise comment j'allais et à quel point ça correspondait aussi. Et il y a peut-être une chose qui m'a surpris, pas vraiment surprise dans le sens que je le savais pas, mais que par exemple que je vais tout à fait contre ma nature, par exemple au niveau du sommeil. Au niveau de mon rythme de sommeil, je suis quelqu'un qui se couche tard et qui se lève tard. Et puis ça, c'est tout à fait contre ma nature.
Et ça, vous ne nous en doutiez pas du tout.
Moi, j'avais l'impression d'être plutôt quelqu'un qui avait de l'énergie le soir et puis qui avait de la peine à se lever le matin. Mais en fait, c'est plus un problème de rythme. Je suis en plus en décalage avec mon rythme naturel. Et ce qui fait que, en fait, je vais à l'encontre de ma nature, donc je suis d'autant plus fatiguée comme ça. Bon, ce qui explique pourquoi j'ai tant de peine à me lever le matin, par exemple, mais que c'est pas le fait que j'ai de l'énergie le soir et que j'en ai pas le matin, mais c'est peut-être plus parce que je vais à l'encontre de mon rythme.
Alors, à la suite de ce bilan, vous avez pensé modifier des choses dans votre manière de vivre, alors le sommeil ou l'alimentation, par exemple ?
Alors disons, bon, à long terme, je vais essayer. Là, c'est récent. Et puis au niveau du sommeil, pour l'instant, c'est pas très, très facile de modifier parce que je travaille plusieurs fois dans la semaine le soir. Je travaille souvent assez tard. Donc, c'est pas évident pour moi de me coucher tôt, en tout cas ces soirs-là. Et puis le reste du temps, ben, j'ai aussi une vie sociale qui fait que souvent, je me couche aussi tard. Et puis de changer le rythme, disons, de pas avoir un rythme régulier, c'est aussi difficile. Alors bon, je ne sais pas très bien comment je vais me débrouiller par rapport à ça, mais disons de le savoir, c'est vrai que ça m'encourage à essayer de trouver d'autres solutions. Et puis au niveau de l'alimentation, alors ça aussi, bon, elle m'a dit des choses que je savais déjà, notamment que je mangeais par exemple trop de fromage et de produits laitiers, et comme j'ai tendance à accumuler les graisses, disons qu'il faut que je fasse un petit peu attention à ça. Alors ça, je le savais déjà, et puis j'ai déjà essayé de réduire ce type d'alimentation. Mais bon, je sais aussi que c'est quelque chose qui, qu'en le sachant à long terme, j'essaye de petit à petit de modifier, mais que je ne peux pas changer d'habitude comme ça du jour au lendemain.
Avant d'aller faire ce bilan, vous vous sentiez un peu démunie par rapport à ce qu'on nous propose dans les médecines traditionnelles ?
Mais disons que oui, les médecines traditionnelles, en fait, moi je les utilise plus tellement, bon, sauf si j'ai quelque chose d'assez grave, mais même par exemple quand j'ai une grippe ou un rhume ou une crève une fois par année, comme ça, je me soigne, disons, moi-même avec des méthodes plus douces. J'ai pas envie de prendre des médicaments, ça fait longtemps que j'en prends le moins possible, en fait. Mais je trouvais important aussi d'avoir quelqu'un qui puisse m'aider parce que je ne suis pas médecin et puis je ne suis pas formée dans ce domaine, m'aider à prendre en charge ma santé de manière plus satisfaisante, mais avec aussi des conseils de quelqu'un qui s'y connaît mieux dans ce domaine que moi.
Est-ce que les conseils ont été seulement médicaux? Ça vous a amené des renseignements seulement du point de vue justement santé?
Non, et ça m'a aussi amené un certain nombre de renseignements sur mon état de tension ou sur ma nature, disons, plus psychologique ou plus émotive. Et ça, c'était pas nouveau non plus. Je dirais que par rapport à ça, j'ai pas eu tellement de surprises et j'ai pas eu de choses plus précises que ce que je connais déjà et que je peux continuer à faire toute seule.
Est-ce que quand on va faire un bilan iridologique et puis qu'on se sent peut-être un peu fatigué ou pas toujours très bien, mais enfin sans plus, pas vraiment malade, puis je sais pas si on nous dit tout d'un coup, je sais pas si on vous a dit que par exemple vous aviez une faiblesse dans tel ou tel organe, ça a été le cas par exemple?
Non, ça a été plus une faiblesse au niveau du terrain, c'est-à-dire que j'ai tendance à accumuler les graisses et accumuler le sucre, alors je sais plus le terme technique pour ça. Et aussi que par rapport à l'énergie, je suis quelqu'un qui se fatigue vite et qui n'a pas une réserve d'énergie inépuisable.
Mais ça ne vous a pas troublé, par exemple, de vous dire, bon, ben, alors zut, moi qui croyais que j'étais pleine d'énergie et tout, ben voilà, à mon âge, déjà, il faut que je fasse attention. Ça ne vous a pas un peu perturbé?
Non, ça m'a plutôt rassurée parce qu'effectivement, je sentais que j'avais pas beaucoup d'énergie souvent et puis que j'avais de la peine à récupérer, fait que j'avais besoin de récupérer de l'énergie. Ça m'a plutôt rassurée de savoir que c'était bien ça parce que des fois, j'ai tendance à me culpabiliser parce que je trouve que j'en fais pas assez, puis que j'ai pas assez d'énergie, puis que j'aimerais être plus en forme. Alors de savoir qu'en fait, c'est ma constitution et puis c'est comme ça. Non, moi, ça aurait plutôt tendance à m'aider justement à le prendre en compte et puis à pas vouloir nier ce fait-là et puis pas vouloir dépasser mes limites.
On entendait là quelqu'un qui vient de faire un bilan iridologique. Anne, est-ce que vous avez une remarque juste à faire à la suite de ce témoignage?
Peut-être que pour moi, j'ai toujours ressenti quand même une certaine difficulté en tant que praticienne d'iridologie, de faire passer ce que je vois dans l'œil, qui est une foule de renseignements extrêmement précis, sur lesquels je sais, enfin, j'ai des moyens d'agir d'une certaine façon, et de faire passer, je dirais, ce message hein, à la personne qui est en face de moi, sans la troubler totalement, parce que je ne crois pas que ce soit le but, à mon avis, tout en lui donnant des informations précises qui lui permettent, elle, de mieux se prendre en charge. Alors évidemment que quand j'entends ce que cette personne a dit, c'est évidemment, je m'amuse, il y a des termes qu'elle a utilisés, qu'elle a entendus et qu'elle replace d'une certaine façon. Et je dirais, le témoignage va dans le sens de ce que je souhaite pratiquer, mais l'utilisation de certains termes, quelquefois, ça me trouble un peu parce que je me dis, tonnerre, là, bon, quel est aussi le regard qu'on a de l'iridologie lorsque les gens disent aux autres certaines choses? Je ne sais pas si je me fais comprendre par rapport à ça.
Oui, je crois. Mais là, je crois qu'on va aussi revenir justement plus précisément. On a parlé un peu de ce que l'iridologie permettait de découvrir. Alors, plus précisément, on a parlé de vitalité. J'ai parlé avec d'autres personnes qui ont aussi parlé de vitalité. Vous m'aviez parlé de toxines. Mm-hmm. Alors, qu'est-ce qu'on découvre vraiment?
Mm-hmm. Bien, alors, on découvre les faiblesses. C'est vrai que quand on vient faire un bilan iridologique, la mise en évidence des faiblesses, c'est ça qui apparaît en premier et c'est quand même là-dessus qu'on va discuter puisque c'est quand même dans ce sens-là qu'on va pouvoir faire une prévention. Alors cette faiblesse, elle peut se manifester sur différents plans. On peut avoir par exemple, bon j'ai dit déjà avant, hein, une faiblesse de résistance aux infections, une incapacité de se défendre correctement face aux agressions microbiennes. On peut avoir une incapacité de se défendre face au stress. Hein, y a des gens qui naissent avec une constitution qui fait que par leur héritage, ils vont avoir beaucoup de peine à réagir au stress. Quand je parle de stress, je dirais au stress, à l'accumulation de stress. Hein. Le stress étant aussi une chose tout à fait bénéfique pour nous. On va découvrir aussi les faiblesses, par exemple, au niveau de la construction de l'organisme. Alors là, il faut introduire des mots comme le métabolisme. Hein, le métabolisme qui est fait d'une partie où l'organisme se construit et l'organisme se détruit. Et ça, continuellement. Et si vous voulez, pour que les métabolismes se fassent correctement, il faut que l'organisme ait de l'énergie à disposition. L'énergie, ce n'est pas seulement d'utiliser l'énergie pour être active ou actif dans la vie, mais c'est aussi pour gérer, je dirais, l'intendance du corps. Hein, la fabrication, un foie travaille à longueur de journée, le cœur travaille à longueur de journée, et il faut lui donner de l'énergie pour alimenter le travail du foie, le travail du cœur, etc. Et ça, ce sont les métabolismes. Donc là, on va pouvoir mettre en évidence, par exemple, des faiblesses au niveau de certains métabolismes. Dans le témoignage qu'on a eu, cette personne parlait, elle a dit « j'ai des problèmes, j'accumule le sucre et les graisses ». Alors, ce n'était pas exactement ça qu'on pouvait dire, mais oui, on peut avoir donc des problèmes de métabolisme au niveau des graisses, c'est-à-dire que les graisses ont tendance à être stockées dans certaines parties du corps, on sait bien, éventuellement dans les artères, malheureusement. Ça peut être stocké dans le foie, ça peut être stocké dans différentes régions du corps et provoquer des problèmes de santé. Le sucre, le métabolisme du sucre, ce n'est pas tellement un stockage du sucre que je dirais une mauvaise utilisation de tout le métabolisme du sucre. Le métabolisme du sucre est quelque chose de tellement important par rapport à notre réponse au stress. Hein. Alors, donc là, l'iridologie peut permettre de mettre en évidence des faiblesses de certains métabolismes. Dans les métabolismes dont on peut parler, il ne faudrait pas oublier le métabolisme, je dirais, du calcium et donc de tout ce qui est lié aussi à la réserve minérale du corps. Hein. La réserve minérale, c'est une notion, je pense que pour les médecins, quand on parle de ça, ils nous regardent aussi avec un petit air pas tout à fait clair. Pour nous, disons que la réserve minérale au niveau iridologique est liée essentiellement à la structure même de l'iris. Hein. Une iris qui a une structure très serrée, très dense, c'est quelqu'un qui a une bonne réserve minérale. Quelqu'un qui a une structure beaucoup plus relâchée, eh bien, sa réserve est déjà entamée. Alors, soit il a reçu déjà un capital qui était entamé, soit il l'a utilisé, il a brûlé la chandelle par les deux bouts, ou bien il a vécu normalement, mais il n'a pas redonné à son organisme les choses dont l'organisme avait besoin.
Et à propos des toxines, par exemple, c'est à faire avec ces métabolismes ?
Bien sûr que ça a à faire avec ces métabolismes. Disons que ce qu'on pourrait, pour donner une image des toxines, je dirais les toxines, c'est un peu les cendres. Hein. Si vous avez un poêle, vous donnez du bois, c'est l'alimentation, ça brûle, ça donne de l'énergie, c'est la chaleur. Hein. Et puis, vous avez un poêle qui donne des cendres ou qui n'en donne pas. Et c'est vrai que plus le poêle donne des cendres, donc plus votre organisme donne des cendres, et plus vous aurez de difficultés à gérer tout ça. C'est un poids mort que vous devez transporter avec vous et qui va faire que, eh bien, par exemple, la fatigue peut être à l'origine de ça, hein, de ce poids mort que vous transportez avec vous.
Alors, vous nous l'avez dit, pour vous, l'iridologie, c'est avant tout une affaire de prévention. Alors, quelles propositions faites-vous à l'issue de bilan iridologique ?
Oui. Alors, moi, j'ai des propositions, bien sûr, d'alimentation. Sans être, je ne suis pas quelqu'un qui détient un savoir à ce niveau-là. Je crois que je discute beaucoup avec les gens. Je connais beaucoup de régimes différents et tout ça. Et on essaye ensemble de voir, selon le bilan iridologique, qu'est-ce qui pourrait être approprié à la personne et aussi en tenant compte, disons, de ce qu'elle vit, elle. Hein? Parce qu'on ne peut pas demander à quelqu'un une alimentation très stricte. Si ses conditions de vie actuelles ne lui permettent pas de consacrer du temps à son alimentation. Donc ça, il faut vraiment le discuter. Et moi, j'aime prendre le temps pour cette discussion-là. Je vais donner des conseils d'hygiène de vie. Il y a des gens qui sont des sédentaires purs et pour lesquels c'est extrêmement grave de rester un vrai sédentaire assis sur son fauteuil à longueur de journée, devant sa télévision, ou même lire, ou même être intellectuel dans le sens noble du terme, mais... Hein. Je vais donner des conseils dans ce sens-là. Et puis, bien sûr que j'ai à disposition un certain petit arsenal d'intervention, que ce soit ce qu'on appelle des catalyseurs, des oligo-éléments, que ce soit des drainages par des plantes, que ce soit des reconstituants, si vous voulez, des suppléments au niveau de notre alimentation, du fait qu'on a une alimentation qui est quand même relativement carencée. Et si quelqu'un a une réserve, je dirais, au niveau à des carences, hein, il va falloir par l'alimentation compléter. Donc on peut avoir recours à des compléments alimentaires. Et bon, j'utilise les sels de Schussler, etc. Et puis, personnellement, j'ai un petit dada, c'est le système neurovégétatif. Hein, c'est-à-dire, l'iridologie permet beaucoup de mettre en évidence l'état du système neurovégétatif. Et à ce niveau-là, bon, j'ai une technique d'intervention par la sympathicothérapie. Hein. Bon, ce n'est pas le sujet de notre rencontre aujourd'hui, mais c'est une technique qui est très intéressante pour permettre de régulariser un système neurovégétatif qui est défaillant dans un sens ou dans un autre.
Donc, si j'ai bien compris ce que vous avez dit précédemment, le système neurovégétatif, c'est ce qu'on a en nous pour réagir à ce qu'on accumule et en quoi on va à l'encontre de notre organisme.
Alors, oui, bon, là, il faudrait qu'on...
Peut-être pas du tout, je ne sais pas, mais...
Oui, là, il faudrait qu'on commence à donner des définitions du système neurovégétatif et tout ça. Bon, c'est très intéressant. Disons, peut-être je préfère ne pas en parler là, juste maintenant, parce que je crois que ça nous ferait aller dans un sens, peut-être, qui n'est pas exactement le sens de la prévention, hein, parce que... Oui.
Donc, le sens de la prévention, c'est avant tout une réflexion au niveau... physique, mais aussi une réflexion au niveau psychologique.
Oui, c'est certain. Tout à fait. La personne là qui nous donnait un témoignage disait « J'ai appris des choses au niveau émotionnel. » Alors, il faut bien s'entendre, c'est pas l'Iris qui m'a donné des renseignements au niveau de sa situation émotionnelle. Par contre, alors, si on veut faire un joint avec l'histoire du système neurovégétatif, on peut le faire là, c'est que on a une certaine attitude neurovégétative. Et cette attitude neurovégétative, c'est vrai qu'on l'a reçue. Puis ensuite, on reçoit des messages qui sont des messages de l'ordre de l'éducation, qui sont de l'ordre de la situation socio-culturelle dans laquelle nous vivons. Et puis, on reçoit des messages qui sont liés à l'alimentation, aux vaccinations qu'on reçoit, aux médicaments qu'on reçoit et tout ça. Et tout ça, ça fait un amalgame très personnel, vous pouvez bien imaginer. Alors, je dirais, donc, c'est dans ce sens-là où... Quand la personne dit, on a dit quelque chose, je suis une émotive, etc., je dirais que j'ai des renseignements au niveau de son système neurovégétatif, je la vois aussi, elle, en face, et bien sûr, on peut discuter de tout ça et on arrive à dire à quelqu'un qu'il a telle attitude de vie ou telle autre.
Anne, j'aimerais vous poser une question à mon tour. Un bilan iridologique tel que vous venez de le décrire, on doit le faire tous les combien? Enfin, si j'ai bien compris, on vient vous voir avant d'être malade. Donc, il est peut-être nécessaire de reproduire ce bilan régulièrement?
Alors, c'est vrai que mon plus grand souhait personnel par rapport à l'idée que j'ai de mon travail, c'est que vous veniez quand vous êtes encore ce qu'on appelle en bonne santé. C'est évident. Dans ce cas-là, bon, vous venez une première fois, vous rassemblez un certain nombre de renseignements avec peut-être une petite thérapeutique enfin, qui intervient là. Et puis on peut laisser ça. Hein. J'entends, on est dans un monde actuellement où on cherche des renseignements sur soi et puis ça fait partie de notre trajectoire. Hein. Ou bien alors, on peut aller plus finement dans la recherche. Et j'ai quelques personnes qui sont intéressées dans ce sens-là. Dans ce cas-là, par exemple, je fais un bilan iridologique. Je leur propose de faire des photos de leur iris, ce que je ne fais pas. Je les envoie vers quelqu'un pour faire ces photos. Et puis, ces personnes ont décidé qu'elles mettent un peu d'énergie dans ce regard sur elles-mêmes, etc., de revoir leur alimentation, etc. Et puis... on peut décider, alors personnellement je ne le fais pas avant 1 ou 2 ans, on peut décider de refaire des photos et dans ce cas-là de suivre un peu l'évolution. Alors au niveau de mon expérience, je vais être très honnête, mon expérience ne va pas très loin là-dedans. Par contre, ce que j'ai lu et entendu dire d'autres personnes qui pratiquent l'iridologie et qui ont davantage d'expérience que moi, c'est qu'en effet, il y a des modifications. Il y a des modifications au niveau, par exemple, de la richesse des toxines, de certains, de la structure. Ça, au niveau de la structure, donc cette réserve minérale, ça, j'ai pu personnellement voir des modifications sur moi. donc, j'entends, c'est certainement, il y a un intérêt de faire quelque chose de suivi.
Et alors donc, qu'est-ce qui est pour vous le plus fondamental alors dans l'iridologie ? Ce qui vous importe le plus dans votre pratique ?
Écoutez, c'est réellement de donner un axe vers la prévention. C'est-à-dire que l'iridologie permet, au moment où vous voyez la personne, de lui dire, écoutez, dans les années à venir, il y a un certain nombre de risques. Et bon, on a tous le choix de regarder ces risques en face et d'agir en conséquence, ou bien de se cacher, hein, de faire l'autruche, hein, comme on dit, hein. Mais donc moi, c'est cet aspect qui m'intéresse le plus, c'est que la personne soit intéressée à se poser des questions sur comment est-ce qu'elle peut faire pour éventuellement ne pas développer une pathologie qui aurait pu être prévenue par des choses relativement simples, souvent.
Parce que là, dans ce domaine-là, vous avez remarqué des exemples concrets dans lesquels on peut améliorer vraiment certaines de nos faiblesses.
Mais vous savez, prenons simplement l'exemple de la fatigue. La fatigue peut avoir des origines tellement multiples. Et vous savez que si quelqu'un va chez un médecin consulter pour la fatigue, le médecin lui-même est ennuyé. Il le reconnaît lui-même, il ne sait pas tellement comment agir. Je dirais en iridologie, il y a une curiosité fantastique là-dedans parce qu'on va pouvoir par exemple dire à cette personne « Mais vous êtes fatigué, non pas parce que vous avez trop de travail, mais par exemple parce que votre sommeil est de mauvaise qualité. » Et dans le sommeil, on récupère, on refabrique notre corps, si vous voulez, et on se débarrasse des toxines. Si, par exemple, vous manquez, vous dormez pendant des années 3 ou 4 heures par nuit, comment est-ce que vous voulez que votre organisme puisse faire cette intendance, hein? Donc, enfin, bon, je prends cet exemple-là, mais j'ai parlé avant du poids mort aussi, ce poids mort qu'on transporte. Il peut être à l'origine, si vous mangez mal, que vous accumulez, que vous êtes un gros mangeur, mais qu'en fait, votre constitution n'est pas faite pour négocier avec ce surplus que vous donnez toujours à votre organisme. Ce n'est pas étonnant si au bout d'un moment, votre organisme dit « halte là, je n'en peux plus ». Et il dit « halte là » et heureusement qu'il le dit. Donc moi, je vais donner ces renseignements à l'avance à la personne en lui disant « si vous continuez d'accumuler des choses, vous allez encrasser votre poil ». Et bon, ben, je pense que toutes les maladies de civilisation dont on parle actuellement, depuis l'arthrose, tous les rhumatismes, cancéroses, etc., etc., ont leur origine, bon, pas à 100%, mais il y a un facteur qui est lié à l'encrassement, à toutes ces données que je viens d'expliquer.
Alors avant de terminer, là je suis un peu curieuse, évidemment, comme d'habitude, je ne peux m'empêcher.
Ne bougez.
sur votre bureau, il y a, alors c'est votre œil, d'après ce que j'ai pu comprendre, et vous l'orientez, j'ai remarqué à plusieurs reprises, en votre direction. Il y a une photo, une image de votre œil. C'est le vôtre ou c'est pas le vôtre, je commence à me demander. Que vous orientez ?
Tiens ?
Non, avec, alors je vais être plus précise. Donc c'est l'image d'un œil,
oui.
une photographie d'un œil. Dessous, oui. Il y a une petite, je sais pas, enfin c'est mis dans un cadre. Dessous, il y a
oui,
une petite montre, c'est
oui,
ça ?
Oui, il y a une petite montre, exactement.
Ah bon, je pensais peut-être la montre.
Mais vous savez,
regarder.
Exactement, c'est que la montre que je regarde parce que le temps s'écoule. Et puis que j'aime beaucoup discuter avec les gens, mais quand même, en général, disons, en une heure de temps, on arrive à faire le tour de la question.
Donc j'ai bien fait de me poser la question, parce que je voyais là, encore dans ce mystère de l'iridologie, quelque chose qui ne l'est pas du tout.
Absolument pas.
Alors, nous étions en compagnie d'Anne Senoussi-Wata pour parler d'iridologie. Si ce sujet vous intéresse, que vous voulez de plus amples renseignements, vous pouvez d'abord nous écrire à Remue Ménage, Radio Zone, 7 boulevard Karl Vogt, 1205 Genève, ou téléphoner directement à Anne Senoussi-Wata au 022 21 66 81. 022 21 66 81.
Merci Marianne et merci Anne.
Merci à vous.
Petit, que vois-tu là? Je vois le ciel qui rougit et le soleil qui s'ennuie. Altro mi bisogna
résonne au dernier temps. Altro episodio. Amami come da me, non hai nessun valgogna. Tra la lera, la rinna, la amami come da me, non hai nessun valgogna. Tra la lera, la rinna, la
Maria Carta sur Radio Zone Remue Ménage 93.8 et notre émission est terminée. Nous allons laisser la place à nos amis de Radio Pleine Lune. Nous vous rappelons que vous pouvez rester aussi branchés jusqu'à après 8 heures avec Cause Toujours Tu M'intéresses. Et la semaine prochaine, eh bien, nous espérons recevoir Gisèle Salin qui présente un nouveau, enfin un spectacle qu'elle avait déjà monté, Les Enfants de la Truie au Théâtre du Grutli à Genève. Alors nous espérons beaucoup les avoir à notre micro la semaine prochaine. Au revoir sur Remue Ménage Radio Zone 93.8. 8.